Bienvenue à bord.
Bonjour à toutes et à tous. Au sommaire de ce magazine, l'histoire étonnante de l'almanach du marin breton qui fête cette année ses 120 ans. On y trouve des infos nautiques pratiques, mais également des maximes. On en parle dans un instant avec notre invité Dominique Raoul, membre de l'œuvre du marin breton. Une maxime justement, Dominique ?
Je préfère vivre en optimiste et me tromper que vivre en pessimiste et avoir toujours raison.
Également au menu de la voile avec l'épilogue de la Brest Atlantique, cette première course avec des maxi trimarans qui a vu la victoire cette semaine de l'équipage d'Edmond de Rothschild, des bateaux impressionnants qui volent sur l'eau, gare à l'arrêt brutal.
La plus grosse peur, c'est éventuellement de heurter quelque chose et un arrêt. Et là, bah, on est comme dans une voiture, sauf qu'on est à 40 nœuds, ça fait presque 80 km/h. Et on n'est pas attaché, on n'a pas de ceinture, donc ça, c'est ce qui nous fait peur. Hein.
Nos chroniqueurs sont sur le pont, Gwendal Jaffry. De quoi allez-vous nous parler ?
Nous allons parler patrimoine à moteur avec le cercle du motonautisme classique.
Et avec vous, Jean-Michel Gagné, des idées de cadeaux pour un Noël marin ?
Et oui, des cadeaux pour tous ceux qui aiment la navigation sous toutes ses formes. Des petits cadeaux d'ailleurs, quelle que soit la pratique de la navigation que l'on ait, pour faire plaisir à tout un chacun, des enfants aux papis.
A tout à l'heure, messieurs.
Bienvenue à bord, Jérôme Le Breton.
Dominique Raoul, bonjour.
Bonjour.
L'almanach du marin breton fête donc cette année ses 120 ans. Il est né comment cet almanach ?
Alors l'almanach du marin breton est né de la volonté d'un personnage très particulier qui s'appelle Jacques de Tézac. Jacques de Tézac, qui n'est pas du tout au départ un marin, puisqu'il est né à Orléans, mais il a la chance d'épouser une bretonne, Madame Delonlay, qui est une aristocrate, et tous les deux vont s'implanter dans le sud Finistère, en Bretagne. Ils vont tout de suite prendre en main la cause d'une population très difficile, et qui est la population des marins de l'époque, qui menaient quand même tous des vies très très dures, très compliquées, qui travaillaient effectivement dur, mais qui avaient aussi plein de problèmes en termes d'hygiène, de santé, de vie tout court. Et Jacques de Tézac va prendre fait et cause pour cette population et va se dire qu'il faut que je lui vienne en aide. Et pour venir en aide à cette population, il s'apparente un petit peu dans ce qu'il fait et dans sa démarche à ce que sont aujourd'hui les réseaux sociaux, parce que pour moi, Jacques de Tézac est le créateur, l'inventeur du tout premier réseau social du monde maritime pour créer une communauté de gens intéressés par un sujet donné et qui va en plus suivre tout ce qui se passe et développer l'almanach du marin breton qui, dès 1899, donc, lance l'almanach du marin breton en 1899, c'est-à-dire il y a 120 ans.
On parlait de réseau social, on a des chiffres qui sont assez impressionnants. Hein.
Tout à fait. Quand je parle de réseau social, c'est pas innocent, en fait, hein, parce que en 1899 prend un démarrage absolument phénoménal. Hein. Il s'en vend, je crois, 15 000 dans la première année. Et si on comptabilise toutes les ventes jusqu'en 1915, où là, il y a eu une légère interruption liée à la Première Guerre mondiale, il s'est vendu 250 000 almanachs. Donc aujourd'hui, Mark Zuckerberg parlerait de followers, avec l'accent, s'il vous plaît. Mais on peut considérer que Jacques de Tézac a lancé une vraie communauté maritime autour de l'almanach, et il ne va pas s'en contenter parce qu'il va créer immédiatement, dès 1900, un deuxième réseau social qui est le réseau social des abris du marin. Parce qu'il y a l'almanach, certes, qui est un manuel pratique, il se veut, pour Jacques de Tézac, une publication professionnelle et éducative, parce qu'il veut vraiment aider ce public des marins de l'époque à sortir de leur misère. Et donc, on y trouve des éléments professionnels, on y trouve des éléments sanitaires, sociaux, mais également, parce que ça ne manque pas d'humour, des dessins satiriques, des chansons. Donc, il lance ce premier almanach et qui va effectivement connaître un développement phénoménal.
Il avait plein d'idées, plein de projets, Jacques de Tézac, mais au cœur de son action, c'est vraiment l'œuvre sociale.
Alors, l'œuvre sociale, c'est ce qui domine l'activité de Jacques de Tézac dès le départ. Et les abris du marin sont là pour en témoigner. Il va créer 11 abris du marin en Finistère, essentiellement Finistère Sud d'ailleurs, et un au palais à Belle-Île. Donc ça fait 12 abris du marin qui vont connaître aussi un essor premier quart du XXe siècle phénoménal, puisque en 1930, on comptabilise en passage, parce que tout est comptabilisé dans les abris du marin, les passages, massages, les gens qui viennent boire la tisane d'eucalyptus qui est censée soigner l'excès d'alcool que Jacques de Tézac veut absolument que les gens comprennent que ça n'est pas bon pour eux. Et puis il y a également de l'eau de vie. L'eau de vie, c'est une eau de source qui est à disposition des marins. Mais alors, c'est pas de l'eau de vie comme nous on la conçoit peut-être, enfin certains tout du moins. Donc Jacques de Tézac effectivement prend soin de cette population-là, et les abris du marin sont quelque chose de phénoménal. En 1930, cette année-là, il est passé dans les 12 abris du marin 400 000 visiteurs, ce qui est quand même énorme. Et quand on parle de réseau social, aujourd'hui un réseau social qui compte 400 000 followers ou likers, comme on voudra, c'est quand même un beau réseau social déjà.
Je connais des bateaux qui restent dans le port de peur que les courants les entraînent trop fort. Je connais des bateaux qui rouillent dans le port à ne jamais risquer une voile au dehors. Je connais des bateaux qui oublient de partir. Ils ont peur de la mer à force de vieillir. Et les vagues jamais ne les ont séparés. Leur voyage est fini avant de commencer. Je connais des bateaux tellement enchaînés qu'ils en ont désappris comment se regarder. Je connais des bateaux qui restent à clapoter pour être vraiment sûrs de ne pas se quitter. Je connais des bateaux qui s'en vont deux par deux affronter le gros temps quand l'orage est sur eux. Je connais des bateaux qui s'égratignent un peu sur les routes océanes où les mènent leurs jeux. Je connais des bateaux qui n'ont jamais fini de s'épouser encore chaque jour de leur vie et qui ne craignent pas parfois de s'éloigner l'un de l'autre un moment pour mieux se retrouver. Je connais des bateaux qui reviennent au port labourés de partout mais plus graves et plus forts. Je connais des bateaux étrangement pareils quand ils ont partagé des années de soleil. Je connais des bateaux qui reviennent d'amour quand ils ont navigué jusqu'à leur dernier jour sans jamais replier leurs ailes de géants parce qu'ils ont le cœur à taille d'océan.
Clarisse Lavanant, je connais des bateaux, le choix musical de notre invité que l'on va retrouver dans un instant. Ça sera juste après Gwendal Jaffry, le rédacteur en chef du Chasse-Marée, la revue de la culture et du patrimoine maritime, partenaire de ce magazine, qui va maintenant nous parler du patrimoine à moteur avec le cercle du motonautisme classique.
Alors non, le patrimoine maritime ne se cantonne pas aux bateaux de travail en bois, éventuellement tout noir avec des voiles rouges. Ni aux yachts classiques d'ailleurs, même si ce sont les bateaux qu'on voit le plus lors de nos rassemblements maritimes, avec aussi toute cette grande famille des voiles avirons, ces petits bateaux qui permettent de se promener un peu partout avec le gros avantage d'aller sur remorque. Il existe une autre famille, au moins une autre famille moins connue. Ben forcément on la voit moins sur l'eau, parfois en exposition. Et pour autant, ce qui est étonnant avec cette famille, c'est qu'elle est inversement proportionnelle à la plaisance qu'on connaît aujourd'hui avec notamment beaucoup de semi-rigides qu'on voit naviguer. C'est la grande famille du motonautisme classique. Forcément, il faut des passionnés pour animer un tel mouvement, à commencer par un monsieur qui s'appelle Henri Jacques Pechdimalgian. Henri Jacques Pechdimalgian a fondé le cercle du motonautisme classique et il en est aujourd'hui le président. On fait un petit retour en arrière. Dans les années 80, c'est quelqu'un qui est passionné par les voitures de course et puis qui voit aussi devant son travail naviguer des bateaux à moteur. De compétition, ça l'intéresse, il va s'y mettre, et puis petit à petit, il court de plus en plus sur ce type de bateau. Il va même devenir commissaire sécurité de la Fédération française de motonautisme. En même temps, son intérêt pour les bateaux anciens augmente et il attaque sa première restauration très rapidement, une deuxième restauration, une troisième. 1995, il devient le président de l'Hélice Club de France, un club créé en 1896, avec lequel il organise notamment des rencontres de motonautisme, une section motonautisme, et puis un jour il se rend compte qu'il y a un truc qui fonctionne pas entre les deux, entre la compétition et la conservation du patrimoine, on n'est pas forcément dans le même univers, et c'est ainsi qu'il va créer ce fameux cercle du motonautisme classique. Alors, une précision tout de même, ce sont quoi ces bateaux? Alors ce qui est intéressant avec le motonautisme, c'est une histoire assez ancienne déjà. Déjà des bateaux à vapeur qu'on voit naviguer sur la Seine pour la promenade. L'invention du moteur hors bord en 1912. En 1927, Sadikat a un plan jouet avec un moteur hispano-suiza de 180 chevaux, établit un record du monde à 106 km/h, presque 106 km/h. Et ce qui est intéressant avec cette histoire aussi, c'est que le motonautisme classique s'est beaucoup développé autour des motoristes, autour des constructeurs de voitures, puisqu'autant une voiture, c'est difficile de tester un moteur, un bateau, ça bouge beaucoup moins sur l'eau, et donc c'est très pratique sur un fleuve de tester des moteurs de voitures embarqués à bord de bateaux. Et le motonautisme classique, c'est également une typologie de bateau avec le you-you, le plus petit, le dinghy, un peu plus sport, le runabout, encore plus sport, et pour le coup aussi balade où on embarque du monde, cabin cruiser, le plus gros modèle qui permet de dormir à bord, et puis des bateaux de compétition, notamment l'appel ou encore le racer. Ce sont tous ces bateaux, surtout les plus petits d'ailleurs, que vont conserver les adhérents du cercle du motonautisme classique, avec une passion commune, une petite centaine d'adhérents qui se retrouvent à la fois pour bricoler, réparer des moteurs, collectionner, discuter de leur passion, et souvent aussi naviguer. Ils font plusieurs rassemblements et j'espère que vous aurez l'occasion de les croiser à cette occasion, mais attention, c'est très très communicatif comme passion.
Bienvenue à bord, le magazine de la mer.
Suite de notre entretien avec notre invité Dominique Raoul, membre de l'œuvre du marin breton, qui édite l'Almanach du marin breton, nous évoquons son histoire étonnante. Vous avez sorti, Dominique, la reproduction du tout premier almanach qui date de 1899.
Oui, absolument, puisque nous disposons dans nos archives de la collection complète. Je crois qu'il en manque un sur les 120 ans. Mais en tout cas, le 1899, on le garde précieusement. Et effectivement, il y a quelques années, nous avons proposé de sortir ce qu'on peut appeler une reproduction, un fac-similé, en fait, de cet almanach de 1899, qui montre bien la volonté de Jacques de Tézac, quelle était son idée à travers l'apparition de cet almanach, hein, d'en faire cette publication professionnelle et éducative dont on parlait, et qui est un manuel pratique aussi, hein. Il y a des horaires de marée, et il complète tout ça par un petit peu d'humour, parce que il faut intéresser les gens, et puis en plus les solliciter pour les aider aussi à participer à la construction de l'almanach, hein. Chaque année, il n'y a pas qu'un éditeur, mais c'est un recueil d'informations. Aujourd'hui, c'est exactement la même façon que l'on a de travailler, c'est-à-dire de faire appel à tous les capitaineries, des ports. On a des correspondants dans les ports qui nous permettent de recueillir les données, les toutes dernières données. On travaille avec le CHOM, voilà. Donc Jacques de Tézac, c'est un peu son idée, c'est de faire participer à la construction de cet ouvrage, le monde de la mer, à travers ses connaissances et tout ce qui peut en sortir.
Le livre commence par un avertissement. Pêcheurs, chers amis, vous vous demandez pourquoi nous avons fait cet almanach. Nous allons vous le dire. D'abord, ce n'est pas pour gagner de l'argent, car ce livre nous coûte plus cher que nous ne le vendons et les adresses que nous vous recommandons ne nous apportent pas un centime. Ça donne un petit peu une idée de l'esprit de cet almanach. On a évoqué des chansons, des conseils. Il y a également des maximes qu'on peut trouver qui sont croustillantes.
Ah oui, alors l'almanach, dès le départ, Jacques de Tézac a voulu l'illustrer à travers des maximes. Moi, j'en retiens aujourd'hui deux qui sont pour moi d'actualité. Tout d'abord, dans le marasme ambiant, on peut citer celle qui dit « Je préfère vivre en optimiste et me tromper que vivre en pessimiste et avoir toujours raison ». Je pense que beaucoup de gens devraient se mettre une petite picouse d'optimisme pour vivre mieux aujourd'hui. Et puis, il y en a une autre aussi qui est d'actualité, parce qu'elle nous concerne, et elle concerne en tout cas très directement notre monde de la pêche, dont nous sommes très proches, hein, qui est cette phrase de Clémenceau qui disait « L'Angleterre n'est jamais qu'une colonie française qui a mal tourner. Moi, je rajouterais qu'à force de mal tourner, on ne sait plus où trouver la sortie.
Quelques exemples, quelques chiffres pour avoir un petit peu une idée de ce qu'apporte justement cet almanach aux personnes qui en ont besoin.
Alors, la vente de l'almanach, effectivement, nous permet de récolter quelques résultats qui nous permettent, à travers le service social maritime, de venir en aide à des familles. Alors, comment ça se passe? Le service social maritime est implanté à travers des réseaux d'assistantes sociales et assistants sociaux sur tout le littoral français et détecte dans les inscrits maritimes, dans les armements, à la pêche, dans le commerce, enfin bref, des familles qui peuvent connaître des difficultés ponctuelles, et le service social maritime fait à ce moment-là appel à nous, et nous ne décidons pas, parce que c'est eux qui identifient ces familles, nous n'en décidons absolument pas, et nous leur procurons soit des aides remboursables sans intérêt, ou nous leur accordons des dons. Nous avons aidé plus de 1200 familles sur les 10 dernières années pour un montant total d'aide et de dons de 740 000 euros. Bon, voilà à quoi sert l'almanach du marin breton.
Merci Dominique Raoul.
Merci.
Bienvenue à bord, Jérôme Le Breton.
On passe à la voile maintenant avec la Brest Atlantique. Première course avec 4 maxi trimarans partis de Brest, cap sur Rio de Janeiro, le cap, puis retour à la pointe bretonne. Un bateau a dû abandonner. Les 3 autres ont bouclé leur parcours avec la victoire jeudi de l'équipage d'Edmond de Rothschild, Charles Caudrelier, Franck Camas et Yann Rioux. En 28 jours, 23 heures et 24 minutes et une vitesse moyenne incroyable, Fred Collin.
25 nœuds, 45 km/h de moyenne sur 17 000 milles nautiques, 30 000 km. Cela peut paraître rien pour un terrien, c'est énorme pour les marins. Les foils, qui font désormais voler les bateaux au-dessus de l'eau, ont tout changé. Une révolution vécue par Franck Camas en temps réel.
C'est sûr qu'à 30 ans, on n'imaginait pas faire des moyennes au-dessus de 10 nœuds, et maintenant on fait des moyennes à 25 nœuds. Et c'est exigeant pour l'équipage, comme c'est exigeant pour le matériel.
Plus vite, mais aussi plus confort. Ils l'avouent ensemble, les mouvements du bateau sont plus doux. Sauf bien sûr, en cas arrêt brutal, Charles Caudrelier.
La plus grosse peur, c'est éventuellement de heurter quelque chose et un arrêt. Et là, on est comme dans une voiture, sauf qu'on est à 40 nœuds, ça fait presque 80 km/h. Et on n'est pas attaché, on n'a pas de ceinture, donc ça, c'est ce qui nous fait peur. Hein.
Le maxi Edmond Rothschild, comme l'ensemble de la flotte de la Brest Atlantique, a heurté des objets, on appelle cela des ophnies, des mammifères marins parfois, et les skippers en sont désolés, mais aussi des déchets, souvent des containers qui flottent entre deux eaux.
Effectivement, c'est un des vrais problèmes avec ces bateaux. On a 4 appendices qui sillonnent l'océan sur un bateau de 23 mètres de large, donc ça commence à faire beaucoup statistiquement de possibilités de toucher quelque chose. On en est parfois les tristes témoins des choses qui traînent dans l'océan et qui ne devraient pas être là.
Le sujet des ovnis est désormais sur la table, en haut de la pile. Celui qui trouvera la solution pour les détecter décrochera le jackpot de la course au large.
Jean-Michel Guigné vous donne maintenant quelques idées de cadeaux de Noël.
Bienvenue à bord.
Jean-Michel, bonjour.
Bonjour Jérôme.
Pour un Noël marin.
Oui, pour un Noël marin. Alors Noël approche, c'est donc le moment de vous souffler à l'oreille quelques idées de cadeaux pour faire plaisir à vos proches. Je parle naturellement de ceux qui aiment pratiquer les loisirs nautiques sous toutes leurs formes. Alors, j'ai d'abord pensé à ceux qui pratiquent le kayak, le paddle, qui vont sur l'eau avec une embarcation légère et qui n'ont pas toujours envie de se promener avec un gilet de sauvetage sur le dos, car même un modèle gonflable, il est vrai que lorsqu'on est en maillot de bain, on ne trouve pas toujours ça très confortable. Eh bien, Spinlock, qui est l'un des leaders mondiaux du marché des gilets de sauvetage, vient de lancer un produit unique sur le marché qui s'appelle Alto. Il s'agit en fait d'une simple aide à la flottabilité qui est idéale pour pratiquer les loisirs nautiques comme le paddle ou le canoë-kayak, ou même au port ou au mouillage, pour les plaisanciers. Alors attention, ce n'est pas un vrai gilet de sauvetage, il ne se gonfle pas automatiquement au contact de l'eau, mais c'est une aide à la flottabilité 50 N qu'il faut déclencher en tirant sur un cordon idoine. On le porte à la ceinture, un peu comme un sac banane, et sa légèreté et son absence de bretelles font qu'on l'oublie très vite, tout en étant protégé. Une fois utilisé, il n'y a qu'à le replier et changer la capsule de gaz. Cet accessoire coûte 59 euros et on le trouve désormais chez tous les shipchandlers. Moins cher encore, et cette fois destiné à nos enfants, c'est le fameux masque monobloc créé par Decathlon il y a 2 ans et qui connaît un succès fulgurant. Il s'appelle Lizzy Breeze et il est désormais disponible dans une toute nouvelle version pour les enfants à partir de 6 ans. Alors voir sous l'eau, admirer les poissons et respirer facilement dans l'eau comme à l'extérieur, C'est un beau cadeau à faire aux enfants ou aux petits-enfants qui, dès les premiers beaux jours, pourront ainsi découvrir l'univers subaquatique. L'Easy Breeze pour les enfants coûte 25 euros et on le trouve dans tous les magasins de la célèbre marque nordiste. Et pour Papy Pêcheur, eh bien, j'ai pensé à un petit livre qui s'appelle « Je fabrique mes leurres et mes mouches » aux éditions Vagnon. Pour 14,95 euros seulement, on y explique comment construire ses leurres pour la pêche en mer ou en eau douce et ses mouches pour la pêche en rivière. Alors pour un amoureux du bricolage, voilà un ouvrage qui donne des idées et quand en plus on a le plaisir de voir à l'heure de sa fabrication prendre du poisson, le plaisir est décuplé.
Pour terminer ce magazine, Jean-Michel Guigné, vous allez nous présenter le navigateur Yannick Bestaven.
Yannick Bestaven, en effet, à 46 ans, Yannick Bestaven est un navigateur français au brillant palmarès. Vainqueur de la Mini Transat en 2001, une course qui l'a révélé. Il a remporté deux fois la Transat Jacques Vabre, disputé le Vendée Globe en 2008, qu'il dut malheureusement abandonner suite à un dématage, et il prépare actuellement le Vendée Globe 2020. Il compte aussi plusieurs routes du Rhum et Transat Québec-Saint-Malo à son actif, de même qu'une solitaire du Figaro. Ingénieur de formation, il est aussi réputé pour avoir mis au point les hydrogénérateurs qui équipent aujourd'hui presque tous les bateaux de course et leur fournissent l'énergie nécessaire aux équipements électriques du bord.
Merci Jean-Michel Guigné. C'est la fin de ce magazine que vous pouvez retrouver sur francebleu.fr. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Bienvenue à bord. À très bientôt, au revoir.